Alors une cage. Vous avez une cage avec un perroquet, un petit canari dedans. A-t-on le droit de manipuler la cage ou l'aquarium ou carrément de manipuler les poissons qui sont dedans? Les sortir, les poissons, les touquis, les perroquets. Pourquoi? Que ce soit cachère ou pas cachère, de toute façon, s'il est cachère, vous pouvez pas le manger vivant. Donc il est de toute façon moukhtsé. S'il est pas cachère... Non. Un perroquet, un canari, c'est pas cachère, hein. Il n'y a que la poule qui est cachée, et en général, vous ne la mettez pas dans une cage. Donc, vous avez donc un aquarium à la maison, où vous avez une cage avec un oiseau dedans. Qu'en est-il du Shabbat? Le journal nous dit, on vient de voir, qu'on n'a pas le droit de manipuler les animaux. D'accord? Ou les ignantil tout l'aquarium, maintenant, en ce qui concerne la manipulation d'un aquarium ou d'un clou ou d'une cage, qui contient un oiseau d'agrément, quoi. C'est pas un oiseau d'élevage que vous avez l'intention de dégorger prochainement pour le manger. C'est rien qu'un oiseau d'amusement, quoi. Où il est beau, perroquet, il chante. Bon. Alors il y a deux, il y a plusieurs chitotes, plusieurs possibilités. Allons-y. Il y a la première possibilité qui vous dit que, bien que les animaux soient mouktsés, dans le cas qui nous concerne, ça n'est pas mouktsé parce que ce ne sont pas des animaux que vous auriez destinés à l'abattage ou à l'élevage. C'est pour ça qu'ils sont mouktsés. Parce que vous ne pouvez pas vous en servir. Là, ils sont... Pardon ? Non, vous n'avez pas un chien par exemple. Vous le gardez pas pour le manger, d'accord? Donc, vous avez un oiseau ou un poisson. Ils sont chez vous pour faire beau. Donc, qu'il bouge ou qu'il ne bouge pas, c'est comme si vous aviez un oiseau empaillé. C'est pas le fait qu'il soit un oiseau qui nous dérange. C'est le fait que maintenant c'est un oiseau qui ne vous sert pas à l'élevage. C'est pas un oiseau que vous avez repoussé de votre tête. Il est dans votre salon, il fait partie des meubles. Le fait qu'il bouge, ça ne change pas d'être un meuble. Vous l'avez mis, il y en a même qui vont très loin, ils achètent des tapisseries et des rideaux en fonction de la couleur du perroquet, quoi. Vous voyez, ça ne soit pas dépareillé. C'est-à-dire, d'acheter le perroquet en fonction des couleurs, c'est plus difficile de trouver un perroquet à la couleur de D'accord? Donc, le Rav Nahé, il dit qu'il n'y a aucun problème. Aussi bien les poissons que les oiseaux sont là pour faire meuble. Ils sont là pour faire, faire beau dans une salle. Faire de décor. Servent de décor. Et donc d'après cette opinion-là, vous avez le droit de manipuler pas les oiseaux eux-mêmes et pas les poissons eux-mêmes, mais l'aquarium et la cage. Si la cage vous dérange à cet endroit-là, vous pouvez la bouger. L'aquarium, pour une raison ou pour une autre, vous ne voulez pas qu'il soit là, vous avez le droit de le bouger. Ça, c'est la première opinion. Deuxième opinion, elle est encore plus permissive. Elle vous dit pas seulement la cage et l'aquarium, vous avez le droit de bouger, mais même les poissons eux-mêmes et les oiseaux eux-mêmes, vous avez le droit de bouger, comme on l'a dit, parce qu'ils sont des objets. Et donc ils perdent leur digne de mouktsé que les Chachamim leur avaient donné sur les animaux. Parce qu'étant donné que si vous avez une poule ou alors une vache, à quoi elle vous sert? Vous avez prévu de la tuer un jour pour la manger, vous avez prévu un usage qui n'est pas permis Shabbat. Donc c'est pour ça qu'on interdit les animaux. Mais ceux-là, de toute façon, ils ne sont pas là pour un usage domestique, ils sont là uniquement pour faire beau. Donc la deuxième chita, elle est encore plus permissive, elle vous dit même l'oiseau, vous avez le droit de le manipuler, Et même le poison, vous avez le droit de manipuler. On s'en fiche.
C'est pas de la musique.
Les Kharamim n'ont pas fait un décret sur la musique des animaux. Ils ont fait un décret sur la musique de peur qu'on en vienne à réparer un instrument. Jouer du piano de peur que vous répariez le piano ou la guitare, ou que vous répariez la corde. Dans le Beth Amikdash, ils jouaient dans le Beth Amikdash. Ils jouaient, il y avait même 100 musiciens quelquefois, à Kippour ou à... Donc c'est pas le c'est quelqu'un qui me xéra des Khachamim de peur qu'on revienne à réparer un instrument. Et bien qu'aujourd'hui, vous allez dire que la plupart des gens ne savent pas réparer un instrument, surtout si c'est électrique, on sait très bien que quand les Khachamim ils décrètent quelque chose, ça va très loin parce qu'on voit... On voit où ça pourra arriver par la suite.
On peut leur donner à manger.
Donc en général, on doit donner aux animaux à manger qui sont à nous. Et là, il vous dit, pas de problème, vous pouvez même les enlever de la cage, par exemple, si vous avez des poissons, que des poissons sont en train de manger les autres poissons. Vous savez que quand il y a des poissons qui meurent dans un aquarium, ils font mourir les autres. Donc il faut vite se dépêcher d'enlever les morts, pour ne pas que les vivants meurent à leur tour. Ouais, c'est un clal de... Si vous avez l'idée un jour d'acheter un aquarium, je vous préviens. Pardon ?
Moi j'ai vu un aquarium. Non, c'est pas son mort.
Justement, mais comme des fois ils se font la guerre, c'est connu, donc on dit qu'on a le droit de les enlever de peur que ils se fassent du mal entre eux. Donc, si manger des poissons morts, on n'aurait pas de problème. Si vous craignez, si vous avez déjà assisté à ça, à une bagarre de poissons entre eux, et qu'effectivement ils vont imiter les autres pour les tuer, donc vous avez le droit d'enlever les morts pour éviter la souffrance des vivants. Et pareil pour les oiseaux. Voilà. Donc, dans tous les cas de figure, donc tout ce que les gens auraient pensé que c'est, on n'a pas le droit de manipuler un aquarium, on voit que oui. Un aquarium, on a le droit. Et les poissons et les oiseaux, on a le droit s'il y a un besoin de les sauver ou de les protéger du soleil ou du froid, etc. Après cette page zoologique, bah, ça vous intéresse pas parce que vous n'avez pas d'aquarium. Mais il y a plein de gens qui ont des aquariums et ils peuvent vous poser la question. Et la plupart des gens vont dire, on n'a pas le droit, c'est des animaux. Alors aujourd'hui, on va parler de la paracha de Balak. Cette semaine, le Chutz La'aretz nous rattrape. C'est-à-dire que cette semaine, ils vont lire deux parachutes en nous. En Chutz La'aretz, ils vont relire Chukat et Balak. Vous savez qu'on va tous, se retrouver tous ensemble au même diapason qu'on avait perdu. Pardon ? Pour nous rattraper. Parce que nous, le Shabbat qui a suivi Shavuot, on avait lu une nouvelle paracha. Ils étaient dans Shavuot. Voilà. Dans la paracha de Balak, il y a le... Vous la connaissez plus loin, la paracha de Balak. Il y a Monsieur Balak qui a peur de la conquête, parce qu'il est roi de Moab. Il a peur que les Juifs conquièrent Moab, qu'ils lui prennent son territoire. Donc il va demander à Bilam, moyennant beaucoup d'argent et beaucoup d'or, il va demander à Bilam de nous maudire pour éviter qu'on envahisse. Mais Bilam, qui a plus de haine encore que Balak, il va le faire de bon gré, de bon vouloir. Et là, il y a une espèce de dialogue entre Dieu et Bilam, puisque Bilam était un prophète. Il y a écrit dans la fin de la paracha, la dernière paracha de la Torah, la paracha de Zot Abracha, il y a écrit Velo Kam Israël que Moshe. Il ne s'est pas levé en Israël comme Moshe, en tant que prophète. Alors on dit, en Israël, il ne s'est pas levé aussi grand que Moshe. Mais chez les Goyim, il s'est levé plus grand que Moshe. Il s'appelait Bilam. Donc Bilam avait un potentiel de prophétie plus grand que Moshe. Donc Dieu lui parle, et il lui dit, je ne veux pas que tu ailles les maudire, ni que tu ailles les bénir, reste assis, reste dans ton coin et ne fais rien. D'accord ? Il lui dit, de toute façon c'est un peuple qui est déjà béni, donc il n'a pas besoin de tes bénédictions à toi, et tu n'arriveras pas à le maudire, donc n'y va pas. Et on voit malgré tout que Bilam y va. Et non seulement Bilam y va, dans un premier temps, il négocie pour dire je ferai attention à ce que je vais dire, t'inquiète pas, je vais pas trop dire de méchanceté, je vais contrôler mon discours. Mais après, plus fort que ça, Dieu lui dit vas-y. Dieu lui dit vas-y. Alors dans les mots, il lui dit Vayomer Elohim et Bilam, Lotelech Imaem. Au début il lui dit ne va pas. Carrément, il lui dit Vayomer Elohim et Bilam, Dieu dit à Bilam, Lotelech Imaem, tu n'iras pas avec eux. Tu ne les béniras pas, tu ne les maudiras pas parce qu'ils sont bénis. Et juste après, on voit, il lui dit. Vayomer Elohim et Bilam, et il lui dit, Lech Itam, va avec eux, va avec les princes que t'as envoyé Balak, Lech Itam, va avec eux, seulement, tu ne parleras que ce que je te demanderai de parler. Vous avez compris? Là-dessus, la Gemara nous apprend quelque chose de très intéressant. Elle nous apprend que quand quelqu'un, le chemin dans lequel quelqu'un veut aller, on l'y amène. D'accord ? Il y a écrit, la Gemara cite cette histoire qu'on vient de voir, elle dit au début, Dieu dit non, et après Dieu lui dit oui, vas-y. Et donc c'est très intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire cette notion de dans le chemin dans lequel l'homme veut aller, on l'amène. On écrit mon tour. Derrière chez Benadam, quand c'est la lechet, on écrit mon tour, on l'emmène. Alors, c'est une question. Et Rachid rajoute quelque chose d'intéressant. Rachid nous dit. Le chemin dans lequel l'homme choisit d'aller. Rachid rajoute le mot choisi. D'accord ? Baderech, chez Ben Adam Rotzel Alechet, Molichi Moto, Rachid dit, Baderech Asher Tivra Lelech. Le chemin dans lequel tu choisiras d'aller. Rachid a rajouté le mot tu choisiras. D'accord ? Donc c'est très intéressant de penser que, comment ça se fait que, de quoi elle parle cette discussion ? Elle parle de la contradiction qu'il y a avec le verset qui vous dit au début, tu n'iras pas, et après le verset dit, tu iras. Donc c'est-à-dire que Bilam a fait un bras de fer avec le bon Dieu, et il dit, je vais y aller, et à la fin Dieu lui dit, allez vas-y. Donc c'est très bizarre, on a toujours l'impression que c'est Dieu qui a le dernier mot dans la vie. Alors on vous dit que non, c'est l'homme qui a le dernier mot. là où tu veux aller, on te laisse aller.
Pourquoi? Parce qu'il veut nous donner une chance genre de faire quelque chose de bien. Ça veut dire qu'il lui a mis sur la voie de pas faire ça. Ça lui aurait peut-être donné un mérite, non? S'il l'avait pas fait. Et finalement, vu que le HM a vu qu'il voulait tuer, il a laissé.
Mais ça a été pire. Le fait qu'il aille, ça a été pire pour lui. S'il n'avait pas été, il serait resté vivant. Il serait mort dans son lit. Là, il a été... Et la Gemara, elle dit qu'il n'a pas peur au monde futur. Il a été... on lui a coupé, c'est Pinchas qui lui a coupé la tête, etc. Il a très mal fini, cet homme-là. Donc ça veut bien dire que le chemin dans lequel quelqu'un veut aller, on l'amène, que ce soit bien ou mal. Il n'a pas écrit si c'est bien. La preuve que c'est mal, c'est que Dieu lui dit « Va avec eux, mais tu ne diras que ce que je te dirai de dire. » Donc il sait très bien que sa kavana, c'est pas de dire des bonnes choses, c'est de dire des malédictions. Et en même temps, ce Rashi là, il est dérangeant, il dit « Le chemin dans lequel l'homme choisit d'aller. » Choisit d'aller. Donc comment ça marche? C'est qu'en vérité, il y a deux façons dans lesquelles quelqu'un prend un chemin. Soit quelqu'un prend un chemin parce qu'il est obligé de le prendre, ou quelqu'un prend un chemin parce qu'il veut le prendre, parce qu'il choisit de le prendre. D'accord? Dans la vie, c'est pas toujours votre choix qui vous a amené quelque part, ou à faire tel le métier, ou faire telle action, ou telle... Très souvent, vous avez été conduit, malgré vous, à... On ne vous a pas demandé où vous allez, où vous êtes né, on vous y a amené de force, on ne vous a pas proposé quels parents vous deviez avoir, on vous les a imposés. On vous a imposé la langue que vous avez, votre langue maternelle. On vous l'a imposé. On vous a imposé d'avoir des yeux noirs ou verts. On vous a pas cloné quand vous étiez petite en disant, choisissez, d'accord? Marqué, couleur de cheveux, pointure de chaussures et... Donc ça non plus, on vous a pas... Vous avez votre avis. Donc il y a des tas et des tas de choses qu'une personne fait dans la vie qu'elle ne choisit pas. Elle est obligée de gérer par son libre arbitre de faire le bien avec les cartes qu'on lui donne. Ça c'est d'accord. Maintenant, il y a une autre situation, celle dans laquelle on est dans la paracha. C'est qu'on vous dit le chemin dans lequel vous voulez aller. On vous y amène. Le chemin dans lequel vous voulez aller, on vous y amène. Et Rashi rajoute, vous choisissez d'aller. Donc, c'est bon. Donc Rashi a besoin de rajouter ça, parce que vous auriez pu dire, toute la vie, tous les chemins où je veux aller, je peux y aller. On dit non, c'est que les chemins que tu choisis où on va t'aider. Mais c'est pas forcément les chemins que tu ne choisis pas. Quoi. Les chemins que tu ne choisis pas, on t'y amène de force. C'est pas qu'on te demande pas ton avis, on t'y amène de force. C'est quand tu choisis qu'on va t'aider.
Mais je comprends pas pourquoi. Là, Hachem, il l'a mis sur la voie, il lui a dit, c'est pas bien, je te conseille pas. Il lui a sous-entendu qu'il va aller mieux pas qu'il y aille.
Après, il lui dit, mais vas-y. Non, il n'a pas dit, il va aller mieux pas. Il lui dit, va y avoir Elohim El Bilam. Il lui a dit, en pleine nuit, il lui est apparu, il lui a dit, ces gens-là sont venus te chercher. Koum l'Echita, va avec eux. Donc il lui donne l'ordre. Koum l'Echita, va avec eux. Et rien que ce que je te dirai de dire, tu diras. T'as assez, tu feras. Donc au début, il lui a dit non, n'y va pas.
Au début, il lui a dit,
dans le Passouk 12, il lui a dit n'y va pas. Et dans le Passouk 20, il lui dit vas-y. Et c'est de là que la camarade déduit. Ah, donc on voit bien que le chemin où l'homme veut aller, on l'aide à aller. Rashi rajoute le chemin où l'homme choisit d'aller. Vous avez compris? Donc ça veut dire que le... Qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre, cette paracha? Elle vient nous apprendre que sur les choses sur lesquelles vous n'avez pas choisi d'aller, vous n'aurez de compte à rendre le chemin que vous n'avez pas choisi de prendre. Qu'on vous a imposé, vous n'aurez pas de compte à rendre, ou du moins vous aurez des comptes à rendre, que si, effectivement, vous auriez dû exploiter le meilleur des conditions que vous avez, vous ne l'avez pas fait. On vous a imposé certaines choses, on vous les a imposées. Maintenant, on ne vous demandera des comptes que pour les raisons pour lesquelles vous n'avez pas exploité le meilleur de ce chemin-là. On vous a imposé. Pardon? Voilà, c'est ça. Vous êtes né avec des dons et vous êtes né avec des déficits. On vous excusera les déficits et on vous demandera de les arranger. Et on vous demandera d'exploiter vos dons. Donc sur ce qu'on vous impose, vous avez un programme. Maintenant, sur ce que vous avez choisi, là on sera implacable. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu veux te substituer à Dieu dans les choix de la vie, c'est le cas de Bilam, Dieu lui dit n'y va pas. Donc c'est parce qu'il sait que c'est pas bon pour lui. Mais à partir du moment où tu te substitues à Dieu, tu veux faire une chose qu'on ne t'a pas demandé de faire, ou tu veux faire une chose qui est bonne pour toi, sache qu'on va t'aider dans ce chemin-là. Ne crois pas, comme les gens pensent en général, que si une chose n'est pas bonne, ben Dieu l'aurait empêché. Très souvent, les gens ils réagissent comme ça. Ils vous disent, j'ai choisi quelque chose, donc ça veut dire que Dieu le voulait. D'accord? On te dit non, pas du tout. Tu as choisi quelque chose, donc Dieu t'a aidé à le faire, que ce soit bien ou mal. À partir du moment où tu insistes, on va t'aider. Que ce soit bien ou mal. Voilà. On ne peut dire tout est pour le bien que quand c'est une chose qui est arrivée malgré vous. Et quand une chose n'arrive pas malgré vous, ne dites pas tout est pour le bien. D'après vous. On choisit rien du tout. On vous impose. C'est ce qu'on appelle dans la chassidut la itaouta dileela, le réveil qui vient d'en haut. Il y a un réveil qui vient d'en haut. Donc il s'impose. Il s'impose tout seul. Hein? Il s'impose tout seul. Oui, très souvent, les gens ils vous disent. Je suis revenu à la Torah parce que j'ai entendu le rabbin ces trucs qui a dit ça, ou j'ai vu ça, ou j'ai fait ci, ou j'ai... Ils s'imaginent qu'ils ont choisi leur arrivée au judaïsme. Ils s'imaginent avoir choisi. Alors qu'en réalité, c'était poussé par le haut. C'est ce qu'on appelle Itaroutad, il est là, réveil d'en haut. C'est ce qu'on appelle le réveil d'en haut. Maintenant, à quel moment vous allez choisir? C'est quand le réveil d'en haut va s'arrêter. Ah, vous saurez ça bien très bientôt. Quoi? Au début, vous êtes poussé par en haut. Et vous êtes persuadé que c'est vous qui avez choisi, vous n'avez rien choisi du tout. On vous a montré que c'est comme la blague du. La blague du gars qui vient en Israël, on lui montre les hôtels, etc. Puis après, une fois qu'il devient Olé Hadash, on lui montre que c'était pas comme ça. On lui dit, alors, ben, ça c'était touriste. Là, c'est des touristes, mais maintenant, tu habites là.
C'est exactement ça.
C'est comme la visite en enfer, vous savez, la blague. Il va en enfer, c'est bien, il y a des casinos, il y a des plages et tout. Puis après, quand il meurt, on l'envoie vraiment, il dit, mais c'est pas ça qu'on va montrer. Ben, là, c'est des touristes, maintenant, tu habites. Donc c'est la même chose, le bon Dieu il fait croire aux gens que c'est facile et que c'est agréable, donc il attire les gens dans le système, et une fois qu'ils sont arrivés dans le système, il coupe les robinets d'en haut, donc il ne vous donne aucun, il vous enlève ce qu'on appelle la itarota d'Ileela, le réveil d'en haut, et maintenant il vous dit, il n'y a plus la bouée, il faut nager maintenant. Alors c'est là qu'on choisit. C'est là que ça s'appelle choisir. Où vous allez sans bouée nager, et c'est plus du tout facile comme avant, vous allez voir tous les défauts, tous les problèmes, tous les inconvénients, où vous allez dire non, moi ça ne m'intéresse pas. Vous allez redescendre de plafond. Ben voilà. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah d'éduquer les enfants, parce que si on ne les éduquait pas, ils choisiraient sûrement pas le chemin dur. Pourquoi ils vont se casser la tête? Pardon? Il faut les frustrer. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous allez les frustrer, pas les frustrer? Qu'est-ce qu'ils vont leur faire? Qu'est-ce que vous avez? Non, vous inquiétez pas. C'est pas parce qu'on leur tape dessus qu'ils en vont. Ne parlez pas comme les gauchistes, pas les frustrés, etc. Présentez-moi un cas, je vous dirai s'il est frustré. Bon, Bekitsu, l'histoire de Bilam, elle est pas choute. On vous dit, quand tu choisis pas, d'accord, alors tu te débats avec tes cartes. Alors, on te demandera des comptes si tu n'as pas exploité les qualités, mais on sera plus patient avec toi, on te donnera des tuyaux pour comprendre qu'il faut exploiter tes qualités, travailler tes défauts, ok. Alors que dans le cas où tu choisis un chemin, bon ou mauvais, quand il est bon, on t'aide. Quand il est mauvais, on te dissuade au début, après on t'encourage. Mais ne pense pas que l'encouragement de la suite veut dire qu'on t'a donné les pleins pouvoirs et le feu vert et un chèque en blanc. On te laisse faire, mais après, tu payeras les mots cassés.
Mais en faisant, on sait si c'est
bon ou c'est mauvais. Bien sûr. On parle pas des gens qui ne savent pas ce qu'ils font, on parle de gens qui savent pertinemment qu'ils sont dans un bon chemin ou un mauvais chemin. Alors, c'est pour ça qu'on compare très souvent Bilam, aussi bien dans les Pirkei Avot que dans le Rashi, dans cette page-là, on compare Bilam avec Abraham Avinu. Ils ont eu les mêmes comportements, l'un en face de l'autre. Vous voyez? Dans les Pirkei Avot, on compare. On dit qu'Abraham, il était humble, il n'aimait pas le... Il n'aimait pas l'argent, il était quelqu'un de qui se considérait comme nul, alors que Bilam c'était un homme très cupide qui voulait manger le monde, etc. Donc on compare beaucoup Abraham à Bilam, et vous voyez qu'Abraham, c'est exactement le Bilam. Abraham, il a découvert Dieu à 3 ans. Avant, ça a été très dur pour lui, après il s'est engagé, après il a avancé, etc. Et donc le chemin dans lequel il a voulu aller, on l'a encouragé. Donc ne croyez pas, c'est la grande épreuve des gens qui font les idiots, c'est qu'ils sont persuadés que puisque Dieu les a laissés faire, c'était une preuve que c'était bien pour eux et que c'était voulu. Bien sûr, c'était voulu, puisque Dieu l'a laissé faire, donc Dieu l'a voulu. Mais sache que si Dieu l'a voulu et t'a laissé faire, peut-être qu'il va se servir de toi, comme Bilal. Il se sert de lui pour donner une plus grande bénédiction que ce qu'il aurait fait sans Bilal. Il y a des bénédictions extraordinaires dans ce que dit Bilal. Mais après, ça va lui retomber sur la tête. Ça veut dire qu'il y a toujours ce malentendu. Il y a des gens qui vous disent « Mais je l'ai fait parce que c'était tellement évident. C'était tellement évident que tu aurais dû savoir. » Qu'est-ce que vous avez ? Mettez-lui une chaise dehors, peut-être. Une petite blanche. Peut-être de l'eau fraîche, ouais. Bon. C'est la marre. Ça m'a coupé le sifflet, qu'on voit. Donc, les gens s'imaginent que puisque j'ai pas de feu rouge dans ce que je fais, ça veut dire que c'est bon, quoi. Je suis dans le bien. Et ça, c'est le problème de Bilal. Et c'est intéressant parce qu'on vous. La Torah, en quelque sorte, n'a pas voulu apprendre ça d'un juif. Elle a voulu l'apprendre d'un prophète corrompu, méchant comme Bilal. Tout se passe comme si on n'a pas voulu vous enseigner ça. Avec quelqu'un d'autre. On aurait pu vous enseigner ça sur Datan, Aviram ou des grands méchants du Tanakh. On vous l'enseigne sur Bilam. Mais la Gemara l'apprend pour tout le monde. Elle nous dit pas l'égoïme marche comme Bilam et les juifs non. Non, la Gemara dit ça pour tout le monde. Dans le chemin dans lequel un homme veut aller, sans préciser qu'il soit juif ou goy, on l'aidera à aller. En te prévenant qu'au départ, on t'a mis en garde que c'est pas bon d'aller. Ou que c'était bon d'aller. On t'a prévenu à l'avance. Donc c'est toute la question du, pas seulement du libre arbitre. C'est que c'est un piège au libre arbitre, cette histoire-là. C'est un piège au libre arbitre. Parce que vous avez une situation où vous pourriez dire le libre arbitre, c'est quand j'ai 50 chance sur 100 de faire une chose ou de ne pas la faire. Un libre arbitre, ça doit être équilibré. Il faut que ce soit une balance équilibrée. D'accord ? Donc, d'un côté, j'ai la conscience du bien. D'un autre côté, j'ai la volonté du mal. Et ça doit s'équilibrer. Et donc, quand je suis en équilibre, je peux dire que je choisis. C'est là le libre arbitre. Mais dans l'histoire de Bilam, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est bizarre, parce que Dieu il le pousse à aller. Il dit vas-y. Donc ça veut dire que le fait de sentir qu'il y a une hatzlacha, il y a une réussite dans ce que Dieu ne veut pas, c'est trompeur. Si Dieu lui avait mis une barrière claire, tu n'iras pas, je veux pas que tu ailles. Alors là, vous auriez dit, bon ben c'est bien, c'est formidable, Dieu l'a empêché, il a pas fauté parce que Dieu l'a empêché. Mais là, c'est pas du tout comme ça. Dieu le laisse en lui donnant sa bracha. Il lui dit, vas-y. Et non, parce qu'il lui dit, va, et rien que ce que je te dirai, fais-le. Donc il voit bien qu'il ne lui donne pas une chance. S'il lui met des limites, il sait très bien que il n'a pas du tout l'intention d'aller pour dire ce que Dieu lui demande de dire. Il veut maudire comme il veut.
Il va en mettre des limites après. Avec la
Non, c'est l'ange qui va intervenir.
Oui,
c'est ça qui est intéressant, c'est que l'ange, c'est une deuxième chance qu'on veut lui donner. C'est pas une limite, c'est une chance. Il a démontré qu'il était, il continue à être têtu, quoi. Ah ouais? Et quelqu'un a demandé à Réga. Qu'est-ce qu'elle a tourné de l'œil? Ah, oh, d'accord, ok, mais. De sucre. Ah, de tension. Je croyais que c'était de. Hypoglycémie. Non? Donc on voit qu'une chose qui est claire. Il y a beaucoup de gens comme ça qui s'imaginent que si la Providence a laissé faire une chose, c'est donc c'est un encouragement à le faire. On vous dit pas du tout. Si la Providence encourage une chose, s'il y a une réussite dans une chose qui au départ n'était pas bonne, c'est pas du tout une preuve que la suite est bonne. Puisqu'on te dit n'y va pas, donc il y avait des références pour dire n'y va pas, pitom, tu vois des références pour dire ah mais je peux y aller quand même, donc ne crois pas que ça veut dire que c'est bien. Donc tout le... Il vaut mieux lui dire, ouais, à l'angle David Yalin. David Yalin, David Yalin, Yosef Metzitiaou. Nous excusons auprès de nos auditeurs de srasidout.org. Il y a quelqu'un dans la salle qui ne se sent pas bien. Donc c'est tout le piège de la... Les gens, quand ils font des choses qui ne sont pas exacts. Comme dans la vie, on n'a pas de... Lui, Bilam, il était prophète, donc Dieu lui parle directement. Mais dans la vie d'aujourd'hui, on n'a pas un prophète dans sa poche à chaque détour de la rue. Donc comment on fonctionne? On fonctionne par la superstition, ou par des analyses de providence, en disant la providence a fait que, etc. Très souvent, on fonctionne comme ça. Donc, aussi bien dans le bien que dans le mal, le baromètre que nous avons pour faire une chose ou ne pas la faire, c'est en fonction de la providence et de la réussite ou d'échec. Oui, c'est comme ça qu'en général les gens fonctionnent. C'est comme les Avdil. Comme un rat dans un itinéraire de laboratoire, dans un labyrinthe qu'on lui fabrique. Il y a un itinéraire qui est tracé dans le labyrinthe. Alors, il se donne des coups de tête à droite ou à gauche et il sait que, ah, si j'ai donné un coup de tête, donc il fallait là où il n'y a pas de coup de tête, là où on peut passer. Et quand vous voyez ça dans de haut, une petite souris dans le labyrinthe, vous voyez qu'elle va très vite, mais elle prend des coups et c'est comme ça qu'elle sait. Et l'homme fonctionne comme ça également. Quand il voit un feu rouge à quelque chose, alors ça lui fait un signal. Ah, c'est un feu rouge, donc ça veut dire que Dieu ne veut pas que j'aille dans ce chemin-là. Ou s'il est athée, feu rouge, c'est pas bon. Comme ça qu'on fonctionne. Alors maintenant, c'est là que la volonté va intervenir, ou la personne va insister et va dire non, peut-être qu'il y a un feu rouge, donc ça veut dire qu'il faut attendre le feu vert, ou alors il faut braver la police, il faut traverser au rouge. C'est là que la volonté intervient. Est-ce que malgré le signal rouge que j'ai eu, je vais m'arrêter, ou est-ce que je vais au contraire insister? Alors quand c'est dans le bien, Alors c'est pour ça qu'il y a des enseignements de Chachamim qui vont vous dire que quand tu veux faire quelque chose qui est clairement appelé bien, si tu as du mal à le faire, alors insiste. Comme il dit le Ayom Yom là-bas. Prends exemple du voleur. Le voleur, même s'il a réussi, il a raté plusieurs fois, il va réessayer encore une fois. Il va récidiver. Ça, c'est quand tu sais l'étiquette du bien et l'étiquette du mal. Vous avez compris? Mais très souvent, c'est pour ça que le rabbi dit une phrase remarquable, je vous l'ai cité un milliard de fois, que 90% des problèmes que les gens ont, c'est eux qui se les sont fabriqués. Vous voyez, 90% des problèmes que les gens ont dans la vie, c'est eux qui se les ont fabriqués. Alors quand les gens disent la vie est dure, les gens disent la vie est dure. On se la fait dur, la plupart du temps, c'est parce qu'on se la fait dur. Vous avez compris? Alors, il y a des situations où vous ne choisissez pas, donc, hein? Par exemple, on voit ça chez le rabbi précédent. Quand il a été obligé de quitter la Russie, c'est en Pologne, et de Pologne, il est parti aux États-Unis. Alors, vous auriez pu, les gens lui ont dit, pourquoi tu n'es pas été en Israël, pour les aider aux États-Unis? Alors il a répondu, dans la vie, on ne mène pas, on est mené. On ne mène pas, on est mené. D'accord ? Ça veut dire quoi, si on ne mène pas, on est mené ? Ça veut dire que, effectivement, il y a des situations où vous êtes obligé d'abord, de gérer une situation, même si vous n'avez pas envie de ce chemin-là, vous êtes des fois obligé de le prendre. Quand vous avez une conscience, de quelque chose, des fois, vous ne pouvez pas. Des fois, vous ne pouvez pas abandonner une tâche ou abandonner quelque chose en plein milieu parce que vous avez une conscience. Donc, vous ne menez pas, vous êtes mené.
Des fois, c'est quand on prend les choses, il peut y avoir des problèmes. Si on les prend bien, ça se pointe. Les problèmes sont là, c'est que j'en perds. Quand on dit d'être un
niveau
des gens, ils se font leurs problèmes.
Ouais.
C'est juste la façon dont on les prend, les problèmes. C'est pas...
Non, on ne parle pas de quelque chose qui est objectif. Quelqu'un qui a un problème de santé ou quelqu'un qui a un problème de parnassa, un problème de.
Enfin, la parnassa,
très souvent, c'est un problème dans lequel il a été mis par la Providence. Donc on ne parle pas de cela. Parce que ça, comme vous dites, c'est des problèmes sur lesquels on a été forcé par en haut. Et là, comme vous dites, vous pouvez, avec de l'optimisme, prendre les choses du bon côté. Bravo. On ne parle pas de ça, on parle des problèmes, insurmontables, enfin, très difficiles à gérer que les gens ont. Et quand vous grattez bien, vous dites, c'est toi qui l'as mis là-dedans.
Vous avez vu que souvent, quand on arrive dans son frigidaire, c'est que même si on peut être religieux et avoir rien dans son frigidaire, c'est-à-dire qu'on a fait les choses de façon intellectuelle, on n'est pas vraiment rentré, on vit pas son.
Exactement. Il peut arriver qu'en. En règle générale, dans la vision actuelle, il y a deux tendances. Une tendance qui est en perte de vitesse, qui est la vieille tendance lituanienne d'avant le Baal Shem Tov, qui est de dire la misère sied bien à Israël, la misère donne la Torah, la misère, la médiocrité fait le tzaddik. Cette vieille tendance est en perte de vitesse parce qu'elle est complètement inacceptée par les gens. Donc, il y a ou ceux qui font semblant, ou il y a une minorité qui sont masochistes et qui aiment ça. Et donc elle est en général en perte de vitesse. Mais il y a la tendance chassidique qui dit au contraire. L'abondance du monde, elle est faite pour les gens qui font la volonté de Dieu, pas pour ceux qui ne la font pas. Et donc, si l'abondance du monde est faite pour moi, Si je n'ai pas l'abondance, c'est que j'ai quelque chose qui ne va pas dans mon travail. C'est-à-dire que tout doit se traduire par une réussite, en fait. Si ça marche bien, mon service de Dieu, ma prière, ma Torah, mon frigidaire doit être plein. Vous avez compris? Bah, d'abord, lui, tous les gens ne sont pas faits pour étudier toute la journée, vous êtes d'accord avec moi? Les gens sérieux ne courent pas les rues. Si déjà dans le monde du travail, les gens sérieux ne courent pas les rues, alors dans le monde de la Torah également, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas faits pour étudier mais qui n'ont pas envie d'aller travailler, c'est autre chose. Quelqu'un qui ne dort pas la nuit parce qu'il a une question, qui va la chercher jusqu'à ce qu'il va se coucher quand il la trouvera, ça c'est quelqu'un qui aime la Torah. Si quelqu'un, il aime la Torah comme un fonctionnaire, mais il va quand même prendre des vacances, il va quand même faire tout pour avoir ce monde-là et l'autre monde, c'est pas très sérieux ça. Si des gens exigent d'un footballeur ou d'un joueur de piano, d'un chercheur au CNRS, de travailler 15 heures ou 20 heures par jour, quand il faut, à plus forte raison que quelqu'un qui prétend aller dans la Torah, qu'on l'exigera aussi. On ne peut pas être moins. Alors, on ne peut pas être un fonctionnaire de la Torah et prétendre être un quelqu'un voué corps et âme à Dieu. Si tu es voué corps et âme à Dieu, à toute heure du jour et de la nuit, tu dois penser à Dieu et à sa Torah. Et pas entre 2 et 4 et rendre, et bien manger dans les mariages, bien te la kiffer en piscine dans les vacances. C'est pas très... Tu vois bien qu'il sortira pas de ces gens-là des grands dans la Torah, il sortira des fonctionnaires. Donc on parle pas de ça, on parle pas d'un monde hypocrite faux. On parle de quelqu'un qui est sérieux. S'il est sérieux, aujourd'hui, l'axiome est de dire qu'il doit réussir. Donc vous m'avez détourné du discours de départ, hein. Donc, oui. Ben exactement. Comme l'homme a l'obligation de nourrir sa famille, donc s'il voit que par l'étude de la Torah, il n'arrive pas au niveau financier, alors où il insiste parce que c'est qu'une épreuve, ou il voit que ça ne marche pas, alors il va travailler. Il n'y a aucune honte à travailler, il ne manquerait plus que ça. Le travail est au contraire protecteur. Il empêche l'homme d'être voyou. Donc, les gens fonctionnent donc par des signaux comme ça. Et donc, ils ont l'impression, il y a des gens qui, quand ils font des bêtises, ils ont l'impression que, puisque Dieu m'a laissé les faire, ou alors puisque, même sans parler de Dieu, puisque la providence m'a laissé jusque-là, c'est donc que ce que je fais est bien. Et on voit que c'est pas un bon calcul. C'est pour ça que que Rachid nous dit par la suite que l'initiative de l'ange avec l'ânesse de vouloir l'empêcher, c'est parce que Rachid vous dit pour ne pas qu'il soit perdu. C'était la dernière chance pour qu'il ne soit pas perdu. Vous connaissez pas l'histoire, mais il faudra la lire. L'ânesse de Bilam. Donc ça veut dire que le principe de la prière à Hofshi, du libre arbitre, il se situe en deux temps. Au départ de la vie, et dans beaucoup de cas de figure, on ne choisit pas les situations dans lesquelles on est plongé, on vous y plonge. On vous y plonge. Et quand vous avez une conscience, vous devez gérer cette situation dans laquelle on vous a plongé. Maintenant, deuxième cas de figure, c'est quand vous avez une envie de faire quelque chose. Comme dit Rashi, vous avez choisi ce chemin. Donc à ce moment-là, si vous avez choisi ce chemin, faites très attention. Parce que s'il est bon, c'est sûr qu'on va t'aider à le faire. Et s'il n'est pas bon, c'est sûr qu'on va t'aider à le faire aussi. Et donc à ce moment-là, puisque c'est toi qui as décidé d'aller dans ton chemin, ne viens pas prétendre du fait que ce chemin-là marche, qu'il est obligatoirement bon. Non, c'est parce qu'on sait qu'il n'est pas bon.
Ah, c'est quand on sait qu'on
n'est pas bon. Non, Bilam, il savait très bien qu'il déplaisait à Dieu.
Donc c'est quand on sait qu'il n'est pas bon. Si on ne sait pas, c'est...
Si on ne sait pas, c'est qu'on est manipulé par on. C'est le premier cas de figure. C'est pas le deuxième, c'est le premier cas. Vous n'avez pas choisi. On vous a manipulé.
Par exemple, pour l'Aliya.
L'Aliya en Israël, qu'est-ce qu'il y a dans l'Aliya?
C'est un choix difficile.
Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix, c'est un décret.
Alors il y a des gens qui ratent leur Aliya et qui disent je ne voulais pas m'y emmener. Alors est-ce que c'est...
Exactement. Exactement. Ils ratent leur Aliya parce qu'ils n'avaient rien à faire ici.
Donc là, dans ce cas-là, c'est parce que c'est plus qui.
Il y en a beaucoup. Bien sûr. Il y en a plus de gens qui s'imaginent être faits pour être là que.
Ça peut être ce qu'il aurait voulu au départ. Ça aurait pu être comme Bilam. Parce que finalement, il ne voulait pas vraiment faire son Aliya.
Voilà.
Il l'a emmené.
Aliya, ça veut dire monter. Mm-hmm. Aliya, ça veut dire monter. Donc si vous venez ici, effectivement, pour monter. C'est-à-dire pour avoir des épreuves et des expériences et une élévation spirituelle. Alors vous n'êtes pas trompé d'adresse. Donc c'est sûr qu'on vous laissera avec difficulté rester ici. Mais si vous venez ici pour, comme vous auriez pu partir aux États-Unis pour régler un problème. Fuir un problème avec vos parents ou avec votre mari ou avec ou la parnassa ou ce que je sais moi ou un mal d'âme, vous sentez mal à Arcachon, vous auriez dû partir en Floride. Alors c'est sûr que là vous êtes vous avez peut-être aucune chance de réussir parce que c'est une fausse alia. C'est vous êtes resté au même niveau. Au contraire, vous avez amené vos problèmes dans les valises. Et la douane ne les a pas empêchés de rentrer. Vous avez compris?
Et si par exemple une personne a l'impression qu'elle a toujours fait tout ce qu'il fallait, qu'elle est dans le bon chemin, dans
le
valide, et qu'elle a son
frigo vide? Qu'elle a son frigo vide.
Enfin, vous voyez que ce sou ne va pas bien, quoi. Alors, par où commencer pour voir où ça vient et qu'est-ce que je fais mal, quoi?
On a déjà parlé de ça une fois. Si vous êtes on a comparé déjà le service de Dieu des frères de Joseph avec Yosef. Joseph, les gens qui sont de la génération de l'engeance de Joseph, ils ne doivent pas s'occuper du monde matériel. On leur donne tout sur un plateau d'argent. Ils n'ont pas fait pour s'occuper des préoccupations matérielles. Alors que les tribus, elles, oui, elles doivent s'occuper de ce monde-là. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes quelqu'un de très matérialiste, et que tout ce qui est matériel vous préoccupe, que la soupe soit bien chaude et que il faut le sel, la quantité de sel dans chaque plat. Par contre, si vous êtes très matérialiste, et vous vous rendez compte que vous êtes un matérialiste, vous ne négociez jamais là-dessus, alors c'est une preuve que vous avez un très grand rapport avec la matière. Vous devez pas fuir dans le spirituel. Vous devez au contraire vous affronter la matière. Et si par contre la matière ne vous intéresse pas, vous la fréquentez parce que vous êtes un être humain, alors là c'est une preuve que votre tikkun n'est pas dans la matière, il est dans le spirituel, donc ne vous mêlez pas de la matière. La matière, Dieu va s'en occuper pour vous. Donc si quelqu'un a un problème de parnassa ou de monde matériel, c'est que soit il est effectivement un gros matérialiste, et donc sa place n'est pas dans une yeshiva ou dans un bet midrash, mais elle est plutôt d'aller s'occuper du monde matériel. Et donc s'il n'arrive pas, c'est parce que c'est pas sa place. D'accord ? Ou alors, sa façon de faire la Torah, s'il n'est pas matérialiste, et que malgré tout il n'arrive pas, c'est que sa façon de faire la Torah, elle est trop spiritualiste. Elle ne descend pas dans ce monde-là. Par exemple, il n'étudie pas les choses concrètes qui servent dans le quotidien. Il étudie des choses trop abstraites. Il s'occupe de choses qui ce que la Gemara nous raconte là-bas. On dit qu'à part la tribu de Lévi et Issachar, les autres tribus n'étaient pas dans la Torah. Lévi, parce que c'est leur rôle, ils n'ont pas de territoire, donc ils doivent étudier la Torah, les Kohanim et les Lévi. Et Issachar, parce qu'il a écrit que c'est eux qui étaient spécialistes de l'astrologie, etc., l'astronomie, etc., donc c'est eux qui calculaient le Rosh Chodesh, qui étaient dans Sanhedrin, etc. Alors, Mara pose une question, elle dit, attends, mais regarde, même Yehuda, ils étaient dans la Torah, qu'est-ce que tu racontes? Non, Yehuda, ils étaient dans la Torah parce qu'ils s'occupaient de la halakha. Donc ça veut dire que Yehuda, ça dépend ce qui vous êtes. Si vous êtes fait pour vous occuper de la halakha, c'est-à-dire de la Torah concrète, de régler des problèmes concrets, de régler les problèmes de cette génération concrètement, et que vous passez encore votre temps à étudier des choses qui ne servent à rien, c'est possible que dans la hiérarchie des événements, ça fasse que votre frigidaire, il est plein dans les mondes spirituels. Mais dans ce monde-là, il peut pas être plein. Donc il faut faire ce qu'on appelle un cheshbon nefesh, il faut faire une analyse de soi. Est-ce que je suis en train de me fourvoyer dans un chemin qui n'est pas le mien? Non. Par exemple, je pourrais être un excellent agriculteur et au lieu de ça, je préfère être dans une yeshiva. Ou alors, je dois aller dans une yeshiva, effectivement, puisque j'ai tendance à ne pas être matérialiste. Donc Dieu va s'occuper de mes problèmes. Et malgré tout, Dieu ne s'en occupe pas. C'est parce que dans la yeshiva, j'étudie des choses qui sont trop... Je ne veux pas enseigner, par exemple. Je ne veux pas m'occuper des autres, je ne veux pas enseigner aux autres. Où je ne veux pas étudier une Torah qui soit profitable dans le concret. Il y a toujours tout cheshbon nefesh quand on est honnête avec soi-même, quand on scrute son comportement, on finit toujours par arriver à comprendre ce qu'est-ce qui se passe. Vous savez, pour que la Torah enrichisse, il faut vraiment donner sa vie là-dedans. On ne peut pas s'enrichir artificiellement. De la même façon, contrairement à ce que les gens croient, que les gens qui travaillent, les gens riches qui travaillent, c'est des gens qui travaillent, pas des gens qui font semblant d'aller travailler. Les gens riches qui ont réussi dans le travail, c'est des gens qui travaillent. Pas seulement qui ont des papas qui leur ont donné l'affaire à gérer, Mais c'est pas ce qu'ils bossent, c'est des gens qui sont des bosseurs. Bill Gates, c'est pas un monsieur qui est sur la plage, c'est un monsieur qui est dans ses bureaux, qui se casse la tête à longueur de vie, et donc ici il est riche. C'est pas parce qu'il a eu simplement une aide de Dieu, mais c'est parce qu'il s'est aidé beaucoup lui-même. Donc c'est la moindre des choses que si tu veux être riche tout en étant devant une Gemara, que tu fasses au moins comme Bill Gates ou comme les gens du Chouk. Les gens du Chouk, de Machane Yehuda, ils sont milliardaires. Mais s'ils sont milliardaires, c'est parce qu'ils se tuent au travail. Ils ouvrent, à 5h du matin, ils sont déjà là en train de décharger. Et à 11h du soir, ils comptent la caisse. Et puis ça prend du temps. Donc il n'y a pas de secret. Si dans la vie matérielle, pour être riche, il faut se fatiguer, dans la vie spirituelle, il faut au moins se fatiguer autant. Vous avez compris? Jusqu'à ce que tu acquières des mérites, comme par exemple les rabbis chassidiques sont riches en général. Satmar, Sadigoura, Vijnis, ouais, ils sont toujours riches ces gens-là. Pourquoi ils sont riches? Parce qu'ils ont accumulé des mérites de leurs ancêtres, etc., qui se sont tués à la Torah. C'est pas des gens qui se la cousaient douce. Et j'ai entendu une histoire du rabbi de Belz, rabbi Dov de Belz, un grand sadique, très impressionnant. Alors lui, il disait que quand des gens venaient le voir parce qu'ils étaient malades, alors avec ses mains, il touchait l'organe malade. Et il guérit, les gens guérissaient. Alors les gens sont venus, ils lui ont dit, mais tu fais comme Bilam, tiens, tu fais de la sorcellerie là. Quand en touchant le pied, ça y est, ça, il a plus mal au pied. Avec ses doigts, il parcourait l'endroit où la personne avait mal, et après il n'avait plus mal. Alors il a dit, c'est pas chou, ne croyez pas que je fais de la sorcellerie du tout. Il a dit seulement, quand j'étudie la Torah, je mets les doigts, et je suis avec le doigt. Donc il y a eu tellement de pages que j'ai étudiées, que j'ai traversées, que ces doigts-là, ils sont maintenant capables d'enlever le mal dans le monde. Donc c'était quelqu'un qui restait des jours et des nuits, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui mangeait, qui vivait tranquillement et de temps en temps il étudiait. Non, il donnait sa vie dans l'étude et la prière. Donc c'est la même chose. Si quelqu'un prétend ne pas avoir le frigidaire plein, bah, il faut qu'il se pose des questions. Pourquoi il n'a pas le frigidaire plein? C'est ensemble. Il y a beaucoup de facteurs de pauvreté ou de richesse. Il faut les chercher. En général, les femmes sont plus matérialistes que les hommes, par la nature des choses. Par la nature des choses, il est possible que ce soit à l'envers ou que les deux soient très matérialistes. Ça, il fallait vérifier ça avant, quand ils se sont rencontrés. Qu'est-ce que les deux voulaient? Mais en général, la femme est plus matérialiste, pas parce qu'elle est plus grossière, mais c'est parce qu'elle s'occupe de plus de la matière. Donc elle a plus intérêt à être matérialiste, parce que elle a tendance à être plus dans le monde de la matière. Voilà. Pas de questions ?